Et bonjour Maëlys, bonjour à toutes et à tous. Comment éviter une éventuelle troisième vague épidémique? Faut-il durcir les restrictions, reconfiner certains territoires, accélérer la campagne de vaccination? Autant de questions qui se posent partout en Europe et notamment en France où un nouveau conseil de défense se tenait ce matin à l'Élysée.
Les dirigeants du Parti communiste français célèbrent ce matin un siècle d'existence.
Le PCF, parti révolutionnaire comme il continue de se qualifier, qui croit toujours en son dessein d'abattre le capitalisme au nid et assume par la voix de son secrétaire national sont passés parfois controversés. L'actualité à l'étranger, nous nous rendrons notamment en Argentine. Près de trois semaines après le feu vert des députés, les sénateurs débattent à leur tour de l'interruption volontaire de grossesse. Un vote est prévu ce soir et il s'annonce d'ores et déjà extrêmement serré.
Avec 50 journalistes tués cette année, dont la majorité dans des pays en paix et près de 400 autres emprisonnés, 2020 aura de nouveau été marqué par de sévères atteintes au droit à l'information.
Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, nous recevrons Pauline Hadès-Mével, rédactrice en chef et porte-parole de Reporters sans frontières. Enfin, 12h55, Maëlys, ce sera bien sûr la grande table des idées.
Et oui, nous recevons le philosophe Éric Sadin pour son ouvrage « L'ère de l'individu tyran » aux éditions Grasset.
Après avoir administré ce week-end les premières doses d'espoir, la course contre le virus se poursuit en Europe partout. L'objectif reste le même, vacciner au plus vite la population avant que des mutations ne viennent perturber cette campagne. Déjà, de nouvelles variantes font craindre une accélération de la propagation du virus, sans parler de l'anxiété qu'elle génère, de nature à saper une confiance pourtant indispensable aujourd'hui pour inverser la tendance. Et que dire encore de la crainte d'une troisième vague au lendemain des fêtes de fin d'année. Toujours est-il que c'est dans ce contexte, notamment qu'en France, la situation sanitaire toujours inquiétante dans certaines régions a donc motivé ce matin la tenue à l'Élysée d'un nouveau conseil de défense. Alors de nouvelles mesures seront-elles décidées? Voilà plusieurs jours maintenant que certains élus plaident pour un recours à un nouveau confinement territorialisé. Seront-ils entendus? Et si oui, à quelle échelle pourraient être étendues ces nouvelles restrictions, régions, départements ou métropoles? Ce matin encore, l'ex-ministre socialiste Ségolène Royal et actuelle présidente de l'ONG Désir d'avenir pour la planète a appelé le gouvernement à faire du sur-mesure pour les régions davantage frappées par l'épidémie. Quoi qu'il en soit, et pour leur seule certitude donc, sur les 7 derniers jours, 12 000 nouveaux cas quotidiens de contamination ont été détectés dans l'Hexagone. Autant dire qu'on est encore très loin de l'objectif des 5 000 fixés par le gouvernement. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
Alors depuis dimanche, on l'a dit, les premières vaccinations ont débuté. Un démarrage en douceur qui devrait gagner en puissance la semaine prochaine pour atteindre 1,5 million de vaccinés d'ici fin février. Avec toutefois un obstacle de taille, les craintes liées au vaccin, en premier rang desquelles, Tara, les effets secondaires dont certains ont d'ailleurs déjà été observés.
Oui, Thomas, on sait des choses grâce aux essais cliniques et à la vaccination qui est en cours en ce moment. Alors, Pfizer-BioNTech a administré son vaccin à 43 448 volontaires, dont la moitié est un groupe témoin qui n'a reçu qu'un placebo, ce qui permet de comparer de façon objective la réaction au vaccin. La firme Moderna a mené son essai sur 30 418 personnes, donc ce sont des nombres importants. La FDA aux États-Unis a analysé de façon détaillée les effets liés au vaccin Pfizer-BioNTech. Le laboratoire a demandé à 8 000 des 37 000 volontaires de décrire pendant 7 jours après les deux injections tout ce qu'ils ont ressenti, la moitié de ces 8000 ayant eu un vrai vaccin et l'autre moitié donc un placebo. Globalement, ils ont noté pas mal de fatigue, des maux de tête, des courbatures, par exemple 37% de courbatures après la deuxième injection chez les vaccinés contre juste 8% pour les placebos. Mais dans l'ensemble, ce type d'effet, Thomas, est assez classique après un vaccin et j'ajoute que le tableau est sensiblement le même chez Moderna.
Et on notera tout de même, Tara, que plusieurs décès sont déjà survenus au cours des essais cliniques.
Oui, ça a pu inquiéter les gens, mais en réalité, ces décès ne sont pas attribuables aux vaccins eux-mêmes. Pour le Pfizer-BioNTech, par exemple, il y a eu 6 volontaires qui sont morts entre le mois d'avril et le mois de novembre, mais 2 dans le groupe des vaccinés et 4 dans le groupe des placebos. Ces décès sont considérés comme naturels, si j'ose dire. Statistiquement, en tout cas, il fallait s'y attendre. Ce qui est plus intéressant, ce sont les effets sévères observés sur 0,6% des personnes vaccinées contre 0,5% chez les placebos, toujours pour le vaccin Pfizer. Il y a eu notamment 8 cas d'appendicite chez les personnes vaccinées et 4 cas pour le groupe placebo. Là encore, les experts ne font pas de lien direct avec le vaccin. Idem, il y a eu 4 cas de ce qu'on nomme la paralysie de Bell, c'est-à-dire un nerf facial qui se paralyse temporairement au niveau du visage. Ça arrive aussi dans la population générale à la même fréquence. Il reste en revanche les cas d'allergie dont on a beaucoup parlé. En Angleterre, 4 personnes ont été allergiques, dont une qui n'avait pas d'antécédents, et 6 cas d'allergie graves ont été relevés aux États-Unis sur les 278 000 personnes qui ont déjà été vaccinées. L'une des hypothèses qui circule en ce moment, c'est que cette allergie est due à l'un des composants qui enrobe l'ARN messager et qui n'avait jamais été utilisé pour des vaccins, juste pour des médicaments jusqu'à présent. Mais globalement, quand on regarde l'ensemble de ces effets secondaires, Thomas, on peut dire que la balance bénéfice-risque penche véritablement en faveur d'une vaccination, et cela pour tous les groupes qui ont pour l'instant été étudiés par les laboratoires.
Merci Tara Schlegel. Alors évidemment, cette problématique des effets pose la question du suivi de ces vaccinations. Quelle mise en place pour la remontée de possibles nouveaux effets secondaires? La pharmacovigilance va-t-elle être très encadrée? Élément de réponse avec Daniel Messager.
Pas question de perdre un vacciné dans la nature. Un fichier vient tout juste d'être créé regroupant toutes les données des personnes vaccinées. Les éventuels effets secondaires vont être surveillés de très près, leur fréquence, leur importance. Ce signalement est ouvert à tous, professionnels de santé comme patients. C'est l'aspect vaccinovigilance. On sait pour l'instant que ces effets secondaires sont mineurs. Repérer l'éventuel effet indésirable plus grave et s'assurer qu'il est bien lié à la vaccination est plus compliqué. Le professeur Jean-François Bergmann, ancien vice-président de la commission de mise sur le marché de l'Agence du médicament.
Une fois sur 10 000, une fois sur 50 000, il risque d'y avoir un cas en France, un cas en Italie. D'où l'intérêt non seulement qu'il y ait une pharmacovigilance nationale, mais qu'il y ait un regroupement des informations au niveau d'une pharmacovigilance à l'Agence européenne du médicament, qui fait que quelques petits cas difficiles à analyser dans un seul pays, quand on les réunit au niveau européen, peut correspondre à un signal qui peut justifier d'une enquête.
Le dispositif de suivi portera aussi sur la vaccinosurveillance, une erreur de dose par exemple, et sur la pharmacoépidémiologie. Ce sera plus long, mais ça apportera des informations majeures sur quel est l'impact de la vaccination en santé publique, avec moins de formes sévères de la maladie et moins de mortalité.
C'était il y a 100 ans au congrès de Tours, on essaie le communisme français. Plus exactement, la majorité des adhérents du Parti Socialiste, SFIO, décidait alors d'adhérer à l'Internationale Communiste, le Cominterne, fondé à Moscou par Lénine. Une scission qui allait donc donner naissance à la section française de l'Internationale Communiste, SFIC, futur PCF, ou quand l'unité du mouvement socialiste réalisé 15 ans plus tôt se trouvait brisée. Alors à l'origine de cette rupture, on trouve notamment la condamnation par une majorité d'adhérents de l'attitude de leur parti durant la Première Guerre mondiale, qu'il s'agisse de l'acceptation comme de la justification de la guerre, mais aussi de sa participation au ministère d'Union Sacrée, sans oublier bien sûr l'attrait pour la révolution russe de 1917. Antoine Maret a rencontré pour nous l'actuel secrétaire national Fabien Roussel, lequel a bien voulu revenir sur un moment délicat de l'histoire de son parti, le pacte germano-soviétique conclu en 1939 entre Hitler et Staline. Comment analyse-t-il ce passé, souvent reproché au communisme? Réponse de Fabien Roussel.
Il faut le remettre dans son contexte historique. Staline avait proposé un pacte aux alliés dès 40 pour faire barrage à Hitler. Et qu'est-ce qu'a répondu la France? Plutôt Hitler que le Front populaire, plutôt Hitler que les communistes. Et donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, Staline? Il s'est protégé. Lui, il était à la tête de son pays. Et nous, en France, en même temps que lui signait le pacte germano-soviétique, nous, on appelait à la résistance. Au même moment. Au même moment. Donc, nous avons regretté, nous, qu'à l'époque, il n'y ait pas eu une alliance de la Russie de l'époque jusqu'à la France en passant par les alliés contre la montée du nazisme. Maurice Thorez, il lance un appel en 36 pour du pain, pour la liberté, contre le fascisme en 36. Et on n'a pas beaucoup d'écho à l'époque.
Voilà, Fabien Roussel qui regrette donc qu'il n'y ait pas eu d'alliance de la Russie de l'époque avec la France contre la montée du nazisme. Je vous propose d'écouter à présent la réaction à ces propos de l'historien du communisme Stéphane Courtois.
Ça reprend un vieux récit que le Parti communiste français a entretenu pendant des dizaines d'années après la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui que toutes les archives sont ouvertes, tous les historiens savent que le pacte entre Hitler Hitler et Staline n'étaient pas un pacte dit de non-agression, comme on le qualifiait à l'époque, mais c'était par antiphrase, hein, un pacte d'agression. Et il faut rappeler que s'il y a eu un pacte de non-agression signé le 23 août 1939, bien avant que le Parti communiste entre dans la résistance, comme le dit M. Roussel, ce pacte du 23 août 1939, il a été suivi dès le 1er septembre par l'attaque d'Hitler, évidemment, contre la Pologne, puisque c'est à ça que servait ce pacte de non-agression, puis le 17 septembre par l'entrée de l'armée rouge en Pologne pour liquider les restes de résistance polonaise, et surtout le 28 septembre 1939 par un nouveau pacte d'amitié et de délimitation des frontières. Alors, venir nous expliquer qu'un pacte d'amitié et de délimitation des frontières entre deux régimes totalitaires qui liquidaient la Pologne, venir nous expliquer que pour Staline, c'est le meilleur moyen de se protéger d'Hitler, il faut quand même pas exagérer. En octobre 39, justement parce que le Parti communiste s'était solidarisé avec la politique de Staline et l'alliance de Staline avec Hitler, le Parti communiste a été interdit par le gouvernement de la Troisième République, quand même. Faut jamais oublier ça. Ce n'est pas par hasard. C'est tout simplement parce que le Parti communiste optait pour l'ennemi. Il faut rappeler que le 1er octobre 1939, Jacques Duclos, le grand chef du Parti communiste, diffusait à la Chambre des députés une lettre exigeant que la France sorte immédiatement de la guerre puisque la Pologne avait été vaincue.
Voilà, Stéphane Courtois joue en téléphone par Antoine Marette et auteur de Lénine, l'inventeur du totalitarisme, paru aux éditions Perrin. Voilà un fiasco dont les répercussions, un an après, jour pour jour, continuent de hanter le Japon le 29 décembre 2019. Alors qu'il était en liberté sous caution avant son procès pour malversation financière présumée chez Nissan, Carlos Ghosn quittait tranquillement Tokyo pour rejoindre Osaka en train avant de prendre l'avion pour Beyrouth. Vraisemblablement caché cette fois-ci dans une valise, plus exactement un caisson de matériel audio. Alors les poursuites contre le franco-libano-brésilien ne se sont pas volatilisées pour autant. Non seulement l'ex-magnat de l'automobile est aujourd'hui visé par une demande d'arrestation via Interpol, par ailleurs au Japon, un procès pénal s'est ouvert mi-septembre contre l'ancien responsable juridique de Nissan, l'américain Greg Kelly. Puis au civil, Nissan réclame de son côté 80 millions d'euros de dommages-intérêts à Carlos Ghosn. Enfin, en France, cette fois-ci, l'ancien patron de Renault-Nissan est visé par deux enquêtes judiciaires. L'homme d'affaires et philanthrope turc Osman Kavala restera derrière les barreaux aux grand dam de ses défenseurs qui nourrissaient l'espoir de le voir enfin sortir de prison, en particulier après les promesses de réforme judiciaire formulées par le président Erdogan lui-même. Après que le tribunal d'Istanbul eut rejeté la semaine dernière la demande formulée par ses avocats de remise en liberté pendant la durée de son procès ce matin, la Cour constitutionnelle a jugé à son tour légal son maintien en détention. Écroué depuis plus de 3 ans, Osman Kavala, mécène, figure de la société civile turque, est accusé d'espionnage, mais aussi d'avoir fomenté la tentative de coup d'État de 2016, ce qu'il nie catégoriquement. Cerise Sudri Ledu nous appelle d'Istanbul.
Il y a beau y avoir eu des appels répétés de l'Union européenne, des actions régulières en Turquie de la part de ses soutiens, rien n'y fait, l'homme d'affaires turc Osman Kavala reste en prison. La Cour constitutionnelle turque a estimé aujourd'hui que son maintien en détention ne violait pas ses droits fondamentaux. Cela fait 3 ans que cet avocat du dialogue intercultural de 63 ans est derrière les barreaux. L'Union européenne a plusieurs fois dénoncé sa détention. Elle a averti que la Turquie devait faire des progrès immédiats pour le respect des droits fondamentaux. Cela inclut la libération de toute urgence d'Osman Kavala, a-t-elle signalé. Mais il y a 2 semaines, le parquet turc avait requis la prison à vie contre lui pour tentative de renversement du gouvernement. Face au dialogue de sourds avec la Cour de justice turque, Osman Kavala et ses avocats s'étaient tournés vers la Cour constitutionnelle. Nouvel échec, malgré l'espoir de ses soutiens que la Turquie, soucieuse d'ouvrir des nouvelles voies de dialogue avec l'Europe, statue en faveur de sa libération. Il faudra donc attendre le 5 février prochain, le prochain rendez-vous d'Osman Kavala avec la justice turque.
Unis en nombre contre lui, plus des 2/3 des parlementaires américains présents à la Chambre des représentants ont voté hier soir en faveur d'un budget de la défense de 740 milliards de dollars. En dépit donc des objections du président sortant Donald Trump, une véritable claque pour celui qui se targue d'ordinaire du soutien de son camp et plus encore un mauvais présage pour le milliardaire avant le vote final au Sénat attendu Aujourd'hui, si la Chambre haute à majorité républicaine venait à rejeter à son tour ses objections, ce serait en effet la première fois que le Congrès contournerait ainsi un veto de Donald Trump. Quoi qu'il en soit, et pour un homme qui s'est toujours présenté comme le roi de la négociation, la semaine écoulée fut déjà une véritable humiliation. Rappelons qu'après avoir menacé de ne pas signer un texte, pourtant négocié avec l'aval de son gouvernement, le locataire de la Maison Blanche a finalement apposé son paraphe dimanche soir au plan d'aide économique à l'abri des caméras. L'avortement, de nouveau en débat en Argentine aujourd'hui, bien qu'approuvé par les députés mi-décembre. La loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse jusqu'à 14 semaines doit encore être débattue ce soir par les sénateurs réputés plus conservateurs. Et c'est peu dire que cette question de l'IVG qui divise encore profondément la société laisse présager des échanges tendus et plus encore sans doute un vote extrêmement serré. Il y a 2 ans déjà, 7 voix seulement avaient suffi à la Chambre haute pour repousser un texte similaire qui proposait d'étendre la légalisation de l'avortement au-delà des seuls cas de viol ou de danger pour la vie de la mère. Mais si l'espoir renaît donc aujourd'hui chez les militants de la légalisation de l'IVG, c'est surtout parce que ce texte était une promesse de campagne du nouveau président élu l'an dernier. Reportage dans les rues de Buenos Aires, signé de notre correspondante Caroline Vic.
Dans cette manifestation, après l'approbation du texte par les députés, les militantes au foulard vert, symbole de la légalisation de l'IVG, chantent leur joie et leur espoir de voir dans leur pays l'avortement légal après 15 ans de campagne. Laura, 28 ans.
On a l'espoir que cette année si difficile soit compensée par une fin merveilleuse qui serait l'extension des droits pour des millions de femmes. Et pas seulement pour nous, mais aussi pour nos mères, nos grands-mères, toutes ces générations antérieures qui ne pensaient même pas qu'elles pouvaient lutter pour un tel droit.
Mais à l'image du Sénat, l'Argentine est divisée en 2. Dans une société où les 3/4 de la population sont catholiques, les anti-IVG en bleu ciel sont tout aussi virulents que les verts. Mirta, 82 ans, à la sortie de l'église San José de Flores, où le pape François était curé.
Ces femmes dorment avec n'importe qui. Et après, c'est l'État qui doit leur payer un avortement. Ici, il n'y a pas d'éducation. Leur foulard vert, elles peuvent se le mettre où je pense. Qu'elles ne tombent pas enceintes, c'est tout.
Le débat au Sénat s'annonce très serré. Il pourrait même y avoir un match nul. Dans ce cas, ce serait à la présidente du Sénat de trancher, présidente qui n'est autre que Christina Kirchner, qui a déjà annoncé qu'elle voterait en faveur de la légalisation. Le vote est attendu dans la nuit.
Informer se sera encore révélé être un métier dangereux en 2020. Pas moins de 50 journalistes ont été tués cette année selon l'organisation Reporters sans frontières qui publie aujourd'hui même la dernière partie de son bilan de 2020. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Pauline Hadès-Mével, rédactrice en chef et porte-parole de RSF. Bonjour madame.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Maxime Tellier. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Alors plusieurs tendances se dégagent donc de votre bilan et la plus inquiétante sans doute, la plus choquante certainement vient de ce que dans 84% des cas, eh bien les journalistes qui ont été tués étaient sciemment visés, en d'autres termes ils n'étaient pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Faut-il parler d'assassinat prémédité ?
Oui, absolument. Il faut parler d'assassinat prémédité. Nous faisons état effectivement d'un chiffre très élevé, 84% de journalistes sciemment visés, délibérément éliminés. Beaucoup plus que l'an dernier, beaucoup plus qu'en 2019, il y en avait 63% d'après nos calculs, des journalistes effectivement dont on ne peut plus dire en fait qu'ils sont des victimes collatérales ou victimes des risques du métier, notamment sur des terrains de guerre. Non, aujourd'hui ils sont vraiment attaqués parce qu'ils enquêtent et qu'ils effectuent des reportages sur des sujets qui dérangent et donc on les élimine.
Question de Maxime Tellier.
Alors on va pas se cacher, hein, la publication de ce rapport chaque année est plutôt plombant, le meurtre de journalistes étant la manière la plus extrême d'attenter à la liberté de la presse, à la liberté d'informer. On rappelle quand même que ces cas sont concentrés sur quelques pays. L'Europe est épargnée, les pays occidentaux globalement. Le Mexique est encore une fois le pays le plus dangereux pour les journalistes avec 8 morts devant l'Irak, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde. On tue aussi des journalistes au Honduras, en Colombie, en Iran, en Somalie ou encore au Nigeria. On va prendre un exemple. Qu'est-ce qui caractérise un pays comme le Mexique par exemple?
Le Mexique, donc effectivement 8 journalistes tués. Je rappelle, jusqu'en 2019, il y en avait 10. En 2018, 10 également. Donc c'est une tendance qui se confirme malheureusement, sont des journalistes qui travaillent, qui enquêtent sur des cartels, sur des réseaux criminels, sur la drogue bien sûr, et donc sur la corruption, et qui font état en fait de l'existence en fait de ces réseaux criminels, de marchés, d'une certaine collusion peut-être avec l'État. En tout cas, on est clairement dans des révélations qui touchent les marchés de la drogue, et donc ce sont des journalistes qui sont inquiétés, menacés, sous pression. Certains essayent de faire passer, de partager en fait leurs enquêtes de plus en plus, de façon à ce que s'ils disparaissent, leurs enquêtes demeurent et puissent être continuées. En tout cas, ils sont assassinés parce qu'ils travaillent et ils dévoilent des informations sensibles.
Vous parlez aussi de la barbarie de certains meurtres au Mexique. La façon dont ils sont tués contribue notamment à menacer, à dissuader les autres journalistes. Il y a aussi de l'impunité.
Oui, alors il y a la barbarie. On l'a noté spécifiquement cette année, puisqu'on a noté qu'un journaliste avait été décapité au Mexique, un autre découpé en morceaux. Nous avons noté qu'en Inde, un journaliste avait été aspergé de gel hydroalcoolique avant d'être brûlé. Donc quand même des signes extrêmement forts envoyés à la communauté des journalistes pour les dissuader, comme vous le disiez. Mais effectivement, le problème de l'impunité est un problème majeur, parce que tant que l'impunité demeure, c'est-à-dire tant que les exécutants et les commanditaires, bien souvent, ne sont pas inquiétés, ne sont pas jugés et mis derrière les barreaux, ce type d'assassinat, en tout cas ce fléau, continue de perdurer et de se répandre partout dans le monde. Vous mentionniez tout à l'heure le fait que l'Union européenne est épargnée. Elle ne l'a pas toujours été. En 2017, une journaliste maltaise a été assassinée. En Slovaquie, en 2018, un journaliste d'investigation a lui aussi été assassiné. Et je tiens à signaler que justement cette lutte contre l'impunité est en train d'être marquée de plus en plus évidente à Malte ou en Slovaquie. En tout cas, des données, des avancées ont été mises en place cette dernière année, et clairement ça peut contribuer à protéger les autres journalistes qui font de l'investigation dans ces pays.
Oui, contribuer à les protéger par anticipation. Les auteurs d'agressions savent qu'ils seront poursuivis, c'est ça?
Tout à fait. Oui. Et surtout, nous pouvons faire valoir auprès des gouvernements qu'ils doivent protéger les journalistes, parce qu'il y a un précédent, parce que X ou Y a été assassiné dans le pays, et surtout avait fait état des menaces qui pesaient sur lui ou elle.
On peut se féliciter aussi, c'est une autre tendance qu'on constate dans votre bilan, que le nombre de journalistes tués en zone de guerre est en baisse constante, mais le corollaire de cela, c'est que les reporters tués en zone dite de paix, proportionnellement, c'est devenu le nombre le plus important. Alors, il y a l'exemple du Mexique qui n'est pas en guerre, même si la violence est élevée contre les journalistes. C'est aussi quelque chose que vous constatez de nouveau?
Alors, c'est pas tout à fait nouveau, mais c'est de plus en plus évident. 68%, donc plus des deux tiers des journalistes effectivement tués dans des pays dits en paix. C'est une tendance qu'on avait déjà vue s'annoncer les années précédentes et qui était vraiment aussi marquée l'an dernier. Il y en avait 59% qui avaient été tués dans des pays dits en paix. Je dis dits en paix parce que évidemment le Mexique n'est pas forcément un pays de tout repos comme on l'a pu le voir. Ce que ça montre, c'est qu'en fait, surtout les terrains de guerre, les terrains de conflits sont délaissés par de nombreux journalistes étrangers, des journalistes occidentaux notamment, et donc plus couverts par des journalistes locaux, mais surtout moins couverts, et donc ne sont plus le lieu où les journalistes sont le plus tués, comme c'était le cas il y a une, deux, trois décennies. Donc ces journalistes, je le répète, sont à la fois victimes des risques du métier, mais pas seulement. Ce n'est plus la même situation qu'auparavant. Aujourd'hui, ils sont attaqués, visés, est délibérément éliminé.
Et dans votre rapport, on constate aussi que sur 50 journalistes tués, 49 étaient des journalistes locaux qui ont donc été ciblés pour leurs enquêtes locales. Et c'est pas l'image du grand reporter qui serait tué sur un terrain de guerre.
Tout à fait, voilà, ça vient corroborer effectivement ces données. Ce sont des journalistes locaux qui sont plus exposés aussi parce que le fait de ne pas d'être dans des conditions un peu plus précaires, avec peut-être moins de protection aussi, peut-être moins professionnalisés. On voit aussi sur le terrain beaucoup de fixeurs qui sont devenus journalistes, donc qui n'ont pas la même préparation, et puis bien sûr pas le même équipement comme certains journalistes occidentaux peuvent en bénéficier quand ils partent sur ces terrains de guerre.
Merci Pauline Hadès-Mével, rédactrice en chef, je le rappelle, et porte-parole de Reporters sans frontières, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Maxime Tellier. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi encore chargé, marqué par de très nombreuses averses. 5 départements, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Lozère et le Puy-de-Dôme restent en vigilance orange, neige et verglas. Par ailleurs, une alerte crue affecte toujours les départements des Landes, du Gers et du Lot-et-Garonne. Quant aux températures, elles afficheront entre 3 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par Brice Garcia et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.